Bonjour à tous pour cette 38e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons consacrer toute l'émission à une conférence sur le thème de l'art et de l'écologie. Le programme musical doit beaucoup aux personnes que j'ai visitées en Espagne. Nous commencerons par un duo, un chanteur de flamenco, El Camarón de la Isla, et d'un musicien exceptionnel, Paco de la Lucía, qui interpréteront en parfaite entente « Tu cariños et mi castigo ». Puis nous entendrons la chanson « Fragmentos » de Cristina Rosenvinge, puis le chanteur Nacho Vegas, interprétant « Crimen y Condensa », et enfin la chanteuse Bébé avec « Siempre me querrada ».
quiero sobrevivir si mi vida es un calvario. Desde que te conocí y me besaron tus labios, mala suerte es la mía de haber tropezado contigo, la gustito que yo vivía, tu cariño es mi castigo. Ay, madre mía, que me quisieron mal, amare, que de la que la verra quita, de la que la verra quita, de la que la verra quita, de la que la verra.
Un peu de conférence. Aujourd'hui, je me lance dans une expérience, c'est-à-dire de faire une conférence à la radio, sans les images des œuvres dont on va parler, mais vous en disposez bien entendu dans les news de l'émission. C'est un exercice où je vais parler d'après mes notes, et donc le langage va peut-être être plus maladroit, plus hésitant. Mais c'est aussi une volonté d'essayer d'être plus libre et d'être moins dans une lecture appliquée. La personne qui m'a confié cette conférence et que je vais donner au mois d'avril m'a posé comme thème l'art et l'écologie. Immédiatement, je lui ai dit que ça allait être compliqué puisque ce sujet est absolument immense et qu'aujourd'hui, il est rare qu'un artiste ne traite pas de cette question. D'ailleurs, Paul Ardenne, dans la conclusion de son livre « Un art écologique, création plasticienne et anthropocène » écrit: en l'espace de deux générations à peine, le thème de l'écologie et la question environnementale sont devenus des classiques de la création. Je pense en effet qu'il a raison, ce thème est omniprésent dans la création contemporaine d'aujourd'hui et donne lieu à de multiples créations d'artistes très diversifiées et parfois même contradictoires. Pour commencer cette conférence, je souhaitais l'inscrire en fait dans un mouvement plus vaste de l'histoire de l'art. Donc au début du XXe siècle, nous sommes entrés dans une révolution artistique d'une ampleur égale à celle de la Renaissance du XIVe siècle. Entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, l'art se fonde sur quelques principes, la perspective, la composition et la représentation, impliquant une centralité de l'homme et une volonté d'imiter la nature. Cette révolution des arts visuels au début donc, du XXe siècle, donc 1900, c'est le début de la remise en cause du réel par les cubistes notamment, et c'est surtout une volonté de nier, de rejeter, de mettre à bas toute forme de représentation dans les arts. Il suffit de lire ce qu'écrit Malevich dans son livre « Du cubisme et du futurisme au suprématisme, le nouveau réalisme pictural » de 1916. Voilà ce qu'il dit: quand disparaîtra l'habitude de la conscience de voir dans les tableaux la représentation de petits coins de nature, de Madone ou de Vénus impudique, alors seulement nous verrons l'œuvre picturale. Cette révolution des arts visuels qui prône une œuvre picturale libérée de toute représentation, de toute règle, va interroger son statut. Qu'est-ce qui fait œuvre ? Dès 1917, Marcel Duchamp y répond en présentant son premier ready-made, intitulé Fontaine. Il s'agit d'un urinoir fabriqué industriellement, qui signe d'un pseudonyme Hermut. Le choix de son intervention suffit pour faire œuvre. On en a déjà parlé à différentes occasions dans cette émission. Donc en fait, l'artiste peut recourir à n'importe quel des matériaux, des objets, même immatériels, à toute forme d'action, de citation, de geste, d'attitude pour réaliser une œuvre, pourvu que sa forme soit capable de porter intrinsèquement un contenu. Je prendrai l'exemple par exemple de l'œuvre de Sherry Levin, Fontaine Bouddha de 1996, qui reprend l'urinoir de Duchamp, mais dont la matière n'est plus la porcelaine, mais le bronze brillant. Elle change en fait le contexte. L'urinoir n'est plus un urinoir commun, industriel, mais il est élevé au rang d'œuvre d'art parce qu'il est en bronze. De plus, il cite l'œuvre de Marcel Duchamp et porte en son sein tout le contexte historique de sa création, du succès de cet objet du premier ready-made et de celui qui l'a créé. L'œuvre contemporaine devient dépendante de son contexte extérieur et intérieur, que sont les émotions et le sensible. Et d'ailleurs, je renvoie au livre d'Emmanuel Cochia, La vie sensible. Mais peut-être nous y reviendrons un jour et nous reviendrons sur ce livre. Une évolution donc s'opère entre l'œuvre classique qui répond à des règles précises et celle contemporaine qui est libre d'être n'importe quoi à la condition que le contexte dans lequel il se définit porte suffisamment de sens de ce qu'il dit. Cette évolution nous dirige vers d'autres esthétiques plus contextuelles, plus sensibles, plus perceptibles, plus participatives, plus éthiques et plus sociales. C'est là la grande révolution de l'art moderne. C'est-à-dire de faire des œuvres qui s'intéressent plus à la façon dont le spectateur va recevoir l'œuvre. Comment, à partir de cette œuvre, il va pouvoir retrouver, découvrir de nouvelles émotions. Prenons comme exemple l'œuvre de Lafour Eliasson, présentée à la COP 21 à Paris en 2015, intitulée Ice Watch, et celle de Ying Chu Zhen, intitulée Watching River, de 1995. L'œuvre de Lafour Eliasson se compose de 12 blocs de glace collectés au Groenland, placés place du Panthéon et disposés en cercle sous la forme d'un cadran d'horloge. Ils fondent jour après jour sous l'œil des passants jusqu'à la fin de la Conference of the Party, COP, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le contexte dans lequel l'œuvre se définit, ce sont les blocs de glace venus du Groenland, de l'eau pure, qui sont amenés dans un lieu mémoriel de Paris et qui fondent durant le temps de la COP. Son titre indique aux visiteurs ce qu'il doit faire. Regarde la glace. Le sens de l'œuvre est de révéler les conséquences du changement climatique sur la fonte des glaciers. Xing Junsen fait de gros blocs de glace de l'eau très polluée de la rivière Funan à Chengdu. Puis elle les brosse pour les nettoyer afin que la fonte des blocs renvoie l'eau à la rivière. C'est un geste métaphorique pour rappeler qu'il convient de prendre conscience de la pollution de la rivière et de la nécessité de se lancer dans un militantisme pour en prendre soin. Cette action pour révéler les effets de la pollution est beaucoup plus écologique que celle d'Eliasson qui exige un transport fort coûteux de blocs de glace venant du Groenland. Ces deux œuvres questionnent l'écologie, néanmoins l'une est plus écologique que l'autre, car elle est plus respectueuse d'un comportement écologique, économe et collectif. Ice Watch d'Eliasson est plus démonstrative, monumentale, et le regardeur est passif. Il se contente simplement de regarder l'œuvre proposée, de suivre l'invitation de l'artiste, regarde la glace. Watching River de Yu Chen est plus humble, plus sobre, et demande au public de venir participer à ce geste poétique de nettoyage de la rivière. Ainsi, les deux artistes ne partagent pas la même conception de l'écologie. L'un a une vision plus politique et un rapport à l'œuvre plus classique, l'autre a une vision plus réparatrice, plus soucieuse des conséquences de notre action, et invite le public à y participer. Nous pouvons en déduire que l'art n'est en rien consensuel, et ça, c'est vrai de toutes les époques. De plus, nous pouvons en déduire que la forme esthétique du XXe et du XXIe siècle s'écarte de plus en plus de l'esthétique classique, même s'il serait possible de dire qu'Eliasson y reste encore lié, avec des blocs sculpturaux de glace et la composition du cadran qui marque le temps. Alors que Sudsen s'en écarte, sans soucis esthétiques de la forme ou de l'organisation des blocs d'eau de la rivière, elle dilue son rôle artistique dans une action collective. La grande disparité et diversité des propositions des artistes qui traitent de la question écologique rend difficile une synthèse cohérente. J'ai préféré, dans une visée pédagogique, montrer au travers de trois orientations certes sommaires, arbitraires et surtout non conclusives, comment cette question renouvelle l'approche esthétique contemporaine progressivement. D'abord en mettant en cause la centralité de l'homme dans l'univers, qui met fin à l'opposition culture-nature, en transformant radicalement la position de l'homme vis-à-vis de la nature, car il appartient pleinement au monde vivant, au même niveau que le non-humain, l'animal, le végétal et le minéral, en développant une conscience écologique qui en résulte et qui n'est pas sans effet dans sa compréhension de son action sur le vivant non-humain et sur sa propre organisation sociale, économique et politique. Donc nous commencerons par la perte de la position centrale de l'homme dans l'univers. La présence de puissances supérieures, Dieu, nature, entretiennent un équilibre entre les humains et leur environnement. L'homme se voit confier la terre par les dieux, puis la nature l'accueille comme puissance tutélaire, l'inspire et le nourrit. À la Renaissance, l'homme est au centre de la Terre et l'étendue de sa puissance se limite à ce qu'il voit, c'est-à-dire l'espace que définit la perspective, dont le point de fuite est la porte vers l'au-delà. Le fameux dessin de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, de 1490 en témoigne. C'est un homme au centre dont les membres s'inscrivent dans un cercle et un carré, dont le centre est le nombril. Puis les lumières combattent toutes les formes de superstition et la puissante nature accueille l'homme esselé. L'homme y conserve encore sa centralité, comme dans l'œuvre de Gaspard David Friedrich, voyageur contemplant une mer de nuages de 1818, mais il est de dos, comme s'il s'absente de ce monde qu'il contemple. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'est devenu l'humain ? Une simple figure, l'homme qui marche, d'Alberto Giacometti de 1960. Un être hybride, la Mante grande de 1946 de Germaine Richier. L'œuvre de Gina Penn, Situation idéale, Terre, artiste, ciel de 1969, situe l'artiste au cœur de la nature entre terre et ciel, au point d'équilibre entre eux, obstruant toute possibilité de déceler un point de fuite. L'humain réintègre la nature comme l'un de ses éléments. Il abandonne sa position de domination et comprend qu'il y appartient, comme tout le monde vivant. Il s'y perd dans son infinité, comme Giovanni Anselmo, dans la photographie de grande dimension, 5 mètres par 3 mètres 50, entrée dans l'œuvre, où il marche de dos sur un tapis de feuilles. Et là, vous voyez la différence avec l'œuvre de Gaspard David Friedrich, puisque l'artiste avance bien de dos, mais il est complètement immergé dans ce tapis de feuilles. Donc il en fait partie. Alors que dans l'autre tableau, il en est distinct de ce monde, puisque son œil, encore, voit l'immensité de ce monde comme s'il le surplombait. Mais revenons à l'œuvre de Giovanni Anselmo, où le corps devient réellement du végétal. Exactement comme dans l'œuvre d'Anna Mendieta, Arbre de vie, 1977, où son corps devient vraiment l'arbre, puisque il nous montre un corps qui est complètement pris dans l'écorce, comme si l'écorce l'avait enserré, et l'avait englobé, l'avait englouti, et dont il ne restait que la forme de son corps marquée sur l'écorce. Dans l'œuvre de Gwe Samnang, Rubbermann, 2014-2015, le corps disparaît et devient objet et lieu de dénonciation du déséquilibre écologique que provoque une monoculture destinée au marché international, qui remplace la forêt précédente petit à petit. L'image est tirée de sa vidéo dans laquelle il se verse de la sève d'EVA sur son corps, puis s'égare somnambule dans les plantations bien régulières du nord-est du Cambodge. Où vivront alors les esprits, s'interroge-t-il. Cette œuvre est intéressante à plus d'un titre. D'une part parce qu'il dit « Où vivront les esprits ?», c'est-à-dire que tout le monde ancien, tout le monde de communication, des hommes entre les hommes, disparaît. Et lui devient une sorte de funambule dans ses plantations. Il est comme exclu de la terre. Exclu de la terre qu'il a lui-même abîmée. Comme si la terre ne l'accueillait plus et que lui-même avait quelque peu perdu le sens d'y appartenir.
Ambos. Tú. Eros. Mi sirviente, Adonis, canal, lengua, Caraxo, juventud, sosa cáustica, apio, rosas, rebaño, sudor. Caballo, púrpura, Reproche delicada, Artemis. Niña, ansiedad, dueño, ocre, deseo, yo diría...
Deuxièmement, le nouveau rapport de l'homme avec la nature. Si aujourd'hui les artistes dénoncent les déséquilibres que nous avons engendrés, les artistes des années 1960-70 vont rechercher dans un premier temps à reprendre contact avec la nature, en s'immergeant, en intervenant dedans, en l'arpentant, en la traversant et en essayant de vous faire prendre conscience d'elle. Puis, à proposer un nouveau comportement vis-à-vis de notre terre, et peut-être une nouvelle manière de faire de l'art. Reprendre contact, c'est d'abord se confronter avec la matière terre. Katsuo Shiraga, l'un des membres du groupe japonais Gutai, vient comme affronter la boue dans son œuvre « Lutter avec la boue » de 1955. Josei Beuys réalisera une performance dans la boue « Action in Moore » de 1970 pour sentir, ressentir notre appartenance à la terre. Nombreux sont les artistes qui sont intervenus dans la nature de différentes manières, je n'en cite que quelques-uns. Premièrement, soit en cherchant à marquer de sa présence de façon éphémère ou permanente, autoritaire ou humble, comme pour réactiver le lien entre elle et nous. Walter de Maria, dans son œuvre « The Light in Field » de 1977, installe dans un haut plateau du Nouveau-Mexique aux USA 400 mâts en métal de 5 mètres de haut pour attirer les éclairs. Il renoue ainsi avec la puissance de la nature. De même, Christo et Jeanne-Claude enveloppent avec des toiles la Little Bay à Sydney, 2,5 km de côte sur 26 mètres de hauteur, et produisent une nouvelle vision de la côte avec l'œuvre Rapid Coast de 1968. Cette installation gigantesque qui ne dure que quelques semaines resteront dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vue ou en verront des photographies. Est-ce une dernière tentative de création démiurgique ou la mise en abîme de la perte de notre toute-puissance sur la nature et de notre folie à y croire encore? Owen Briefing, un jeune artiste, nous donne à voir un glacier recouvert de toile dans sa vidéo « Belly of Glacier »« To dress a wound from what shines from it »« Le ventre d'un glacier, penser une plaie à partir de celui qui en émane » de 2023. Ces toiles que les hommes ont posées sur lui pour essayer de réduire la fonte du glacier est une tentative vaine. Pour l'artiste, il n'y a plus de doute, il nous faut prendre conscience que notre sentimentalité n'a plus aucun sens, comme ce qui lui arrivait nous était extérieur. Lui comme nous devenons vulnérables, évitons de retenir de vaines solutions. Cette œuvre est intéressante à plus d'un titre car elle nous montre combien sont complexes et longs les manifestations écologiques. Une fois engagé, il devient difficile d'enrayer la lente dégradation qui va conduire à des catastrophes. Tant le vivant est interconnecté et qu'un déséquilibre à un endroit peut engager un déséquilibre plus grand à l'autre bout de la Terre. Cette vidéo est à la fois lucide, désemparée, mais pas totalement désespérée, car elle se poursuit dans la vallée verdoyante qui est nourrie par le glacier. Elle nous indique clairement que nous ne pouvons plus jouer les apprentis sorciers et que toute action menée doit être réfléchie et responsable, si nous ne voulons pas qu'elle soit vaine. Si l'action de Christo et Jeanne-Claude est éphémère, d'autres artistes inscrivent leur action dans la durée, comme par exemple celle de Giuseppe Pennone. Dans son œuvre « Arbre » de 1968, il greffe dans un jeune arbre une main en bronze. Plus l'arbre va grandir, plus la main va être enserrée dans l'écorce de l'arbre. Il dit « Je partage ma respiration avec celle du monde vert qui m'entoure. Je sens le flux de l'arbre autour de ma main placée contre le tronc. » Deuxièmement, en arpentant la nature, comme le fait Hamish Fulton, qui documente les espaces qu'il traverse par des notes qui précisent le lieu, les distances, les dates de la déambulation, la forme du tracé, des remarques tant sur des spécificités des espaces traversés que sur son expérience de marche et par des photographies. Richard Long, au cours de ses marches, lui aussi marque à certains endroits son passage, par exemple en traînant ses semelles qui aplatissent les herbes pour produire une ligne, comme dans son œuvre « A Line Made by Walking » de 1967. Il dit « L'espace et la liberté s'expriment dans la marche et ce savoir vit dans l'imagination de chacun, qui est aussi un autre espace. » Troisièmement, soit en mettant en place un dispositif pour faire prendre conscience de la nature. James Turrell crée dans son œuvre « Heavy Water » de 1992 un cube avec une plateforme dans une sorte de piscine, de telle façon qu'il faut plonger dans la piscine et ressortir au niveau de la plateforme pour pouvoir voir un carré de lumière du ciel. Jean-Daniel Berclas organise un vernissage avec buffet afin que les visiteurs puissent venir contempler la vue magnifique qu'offre la vue du lac de Vevey. Et l'œuvre participative et éphémère s'intitule « Vernissage d'un point de vue » de 2012. La série des vernissages d'un point de vue commence en 1997. D'autres artistes cherchent à nous faire prendre conscience de ce qu'est la nature en nous faisant participer à sa nature biologique. Pino Pascali, dans l'œuvre « 32 mètres cubes d'eau de mer » de 1967, remplit de cette eau des bacs carrés au sol de la galerie. Et plus avance l'exposition, plus l'œuvre dégage des odeurs désagréables liées à la stagnation de l'eau dans les bacs. Un autre artiste, Michel Blasi, crée des œuvres dès les années 80 avec de la purée de carottes qui moisit tout au long de l'exposition. Il enduit de carottes un mur qui va moisir, puis sécher, puis desquamer. Mur de carottes 2016 à Foix. Et enfin, soit simplement lui déléguant la fabrication d'une œuvre d'art, comme dans les œuvres Solarisation de Claude Viala, qui expose des forts haricots de ses toiles au soleil tout en protégeant le reste de la toile, ou inversement, pour que l'action du soleil décolore la teinture. Comme dans celle d'Herman de Vries, Sanctarium de 1997, exposé à Münster, qui crée un espace clos où il n'est plus possible d'entrer, afin que la nature se développe seule, sans aucune intervention humaine. Et enfin, comme celle d'Hubert Duprat, qui confie dans les années 1980 à une larve d'insecte, un trichoptère, la frigane, qui a pour habitude de se construire un étui de protection avec des brindilles, des feuilles, le soin de réaliser un bijou, non plus avec ses brindilles, mais de l'or, des petites pierres précieuses. Avec ces quelques exemples, différents les uns des autres, nous pouvons conclure que le lien qu'il recherche avec la nature est physique, organique ou interactif, et que cela change l'approche que nous nous faisons de l'art, puisque, comme le dit l'intitulé d'une célèbre exposition en 1969 à la Kunsthalle de Berne, « Quand les attitudes deviennent des formes, vivez dans vos têtes ». L'art ne produit plus des formes, qui s'inscrivent dans des catégories classiques de l'art, dessin, peinture, sculpture ou architecture, mais découlent d'une action de l'artiste qui fait forme et sens et qui est issue de son monde sensible. Ainsi, la conception de l'art se modifie, à la représentation et à la composition se substituent le contexte et l'intervention. La position du spectateur-visiteur n'est plus passive, mais active dans le déroulement de l'œuvre. Parfois, il agit sur le sens même de l'œuvre, soit qu'il vient, en participant à l'expérience qu'elle propose, la légitimer, soit même la créer. Troisièmement, la nature n'est plus ce lieu de ressourcement de l'homme, mais l'environnement de l'homme, auquel il appartient à égalité avec tout élément qui la constitue. Le produit de l'art n'est plus un objet catégoriel, comme la peinture, la sculpture, mais une action liée à la réalité de nos vies sur Terre, qui en appelle à des objets des préoccupations politiques, éthiques, écologiques, sociales et économiques. Ben soit belle, you, yeah, ben,
nuestros restos después de reventar. Así como arrastras el barro hacia el canal, una cocina minúscula y dos vidas dolidas que aún se han de dañar. Dos vidas raquíticas, 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 raquíticas.
Y ahora me habla y ahora chilla un reloj sin manecillas. Y ahora me habla y ahora chilla, y en sus brazos veo cortes de cuchilla. Y brota sangre, hay mucha sangre. Yo me asusto, ella se parte, hay tanta sangre. Ojalá estuviera en cualquier otra parte. Y somos tan patéticos que ni nos damos pena. No sabiendo el crimen, ignoramos la condena.
¿Qué habrá que cumplir mientras sigamos aquí? En este mundo que no escogimos, pueden las ganas de hacerlo cambiar, o más las de destruir. Pueden más las de destruirnos, más las de destruirnos y nos y nos y nos y nos y nos
y. Y ahora me habla y ahora chilla un reloj sin manecillas. Y ahora me habla y ahora chilla, y en sus brazos veo cortes de cuchilla. Y brota sangre, hay mucha sangre. Yo me asusto, ella se parte, hay tanta sangre. Ojalá estuviera en cualquier otra parte.
Nuestros restos después de reventar.
Troisièmement, la prise de conscience de l'humain, de son appartenance à la Terre, à égalité avec tout ce qui la constitue, c'est-à-dire le développement de la conscience écologique. Maintenant, présentons quelques-unes des différentes actions et formes que les artistes empruntent quand ils abordent la question écologique. Face à un sujet si vaste, il nous est impossible d'imaginer une quelconque exhaustivité. J'ai retenu quatre entrées qui ne visent qu'à simplifier l'approche. La dénonciation, la contestation des déséquilibres engendrés par le développement d'une économie qui a conduit à l'épuisement du vivant, au changement climatique, etc., et en appelle à des préoccupations politiques. Le soin, la compensation de ces équilibres, par le développement de comportements soucieux de modifier notre rapport à la nature, en appel à des préoccupations éthiques. La solidarité, la participation comme moyen de modifier nos façons de vivre ensemble, en appel à des préoccupations sociales, et la manière des artistes de penser notre monde en regard avec la crise écologique. Premièrement, dénoncer les déséquilibres engendrés par le développement de notre système économique. La prise de conscience écologique des artistes intervient très tôt, dès les années 60-70, comme celle d'Uri Buru autour des années 70, qui colore en vert des eaux polluées avec une peinture non polluante, biologique. Il dit « Je dénonce avec mon art l'antagonisme entre la nature et la civilisation. C'est pour cela que je colore mon corps, mon sexe et les eaux du monde. Les pays les plus évolués sont en train de détruire la terre et l'eau, réserve du futur dans les pays latino-américains. » Nous pouvons citer aussi celle de Gordon Matta-Clark en 1971, avec son œuvre « Fresh Air Cart », organise une distribution d'oxygène aux passants de New York. Ou celle de Tsutsumi Kudo en 1971, dans son œuvre « Pollution, cultivation, nouvelle écologie », qui nous présente une plantation mutante après la bombe d'Hiroshima, qui annonce un humain entre biologie et écologie. Un peu plus tard, en 1994, l'artiste Cornelia S. Honegger dénonce les effets du nuage radioactif de Tchernobyl de 1986 sur les insectes et les plantes. Vous voyez des punaises écuyères collectées à Tubre, en Italie, les ailes croisées avec des cloques, des trous, des perturbations, du pigment et de la chitine. La chitine étant une molécule de la famille des glucides qui est présente dans les carapaces d'insectes. D'autres s'engagent dans des campagnes publiques de dénonciation des grandes causes écologiques. La fin dans le monde pour l'artiste Agnès Dénès, qui cultive sur deux blocs new-yorkais un champ de céréales à Battery Park en réalisant l'œuvre Whitfield, A Confrontation, Battery Park, Landfill, Downtown, Manhattan de 1982. La confrontation qu'elle vise crée une image qui sera le support de 28 expositions sur la faim dans le monde entier. Des grains de blé furent donnés à chaque exposition pour être replantés. À la même époque, Joseph Beuys, lors de la Documenta de 1982 de Cassel, plante aidé de volontaires 7000 chênes dans la cité, au pied desquels il place un bloc de basalte. Les chênes sont encore visibles aujourd'hui. Il fut l'un des fondateurs du Parti des Verts allemands. Cette installation éminemment politique témoigne d'un système économique prédateur, pollueur et destructeur de la Terre et manifeste une volonté de rétablir et d'inscrire dans le temps les équilibres entre l'homme et son environnement. Aujourd'hui, deux autres artistes, Aykroyd et Harvey, ont collecté des glands, des chênes plantés par Joseph Beuys, et les replantent dans des pots pour les planter à nouveau en terre à l'occasion de différentes rencontres ou expositions. Un autre artiste, Thierry Boutonnier, que nous évoquerons plus avant, lui aussi va replanter un gland d'un chêne provenant de la pépinière de ses artistes. Et tout au long des années 70 à nos jours, un grand nombre d'artistes vont mettre en lumière des déséquilibres écologiques. Contre la pollution, avec l'œuvre de Yin Sun Zen que nous avons vu précédemment, avec celle de E.E., le nuage vert, à Helsinki, en Finlande, en 2010. Ces deux artistes braquent un faisceau laser vert sur la cheminée d'une centrale électrique qui révèle le contour mouvant d'un nuage ainsi que la quantité des émanations polluantes qui en sortent en permanence. Comme la massification des déchets qui résulte d'une production illimitée avec l'œuvre de Yuji Agematsu, 01-01-2004-31-12-2004, qui ramasse dans New York les petits déchets laissés par les habitants dans le déroulement de leur vie quotidienne, un bonbon, un morceau de briquet, des fils, etc. Les met dans des petits sachets et note précisément l'endroit de sa collecte. Deux autres artistes, Ether et Ian Morrison, mettent en place une œuvre monumentale intitulée « Journée des barricades » 14 décembre 2008 à Wellington, en Australie. Ils barrent une rue avec des camions-bennes et une masse considérable de détritus pour former une barricade, qui ne sont pas sans évoquer la révolution, telle que l'écologie se doit d'engager pour réduire la production de masse des déchets, résultat du développement de la société de consommation. Et enfin, comme la montée des eaux, que Sue Reinhardt révèle dans son œuvre « Dawning London » de 2009, qui nous présente un plan de ce qui reste des terres occupables à Londres à l'horizon 2100. Eva Mosher, dans son œuvre « High Water Line New York » de 2007, trace dans New York une ligne qui correspond à la limite de la montée des eaux de quelques dizaines de centimètres, pour ne prendre ici que quelques exemples. Nous abordons donc le deuxième point, prendre soin, c'est-à-dire avoir une attitude d'humilité et d'empathie pour la nature, et mesurer et compenser notre responsabilité concernant les déséquilibres que nous avons engendrés. Prendre en considération la nature à l'égal de l'altérité, c'est montrer une certaine empathie pour la nature. L'artiste Marinette Cueco, dans l'œuvre « Herbes » de 1983, tresse des herbes de la pelouse du Centre national des arts plastiques rue Berryer à Paris. Un autre geste poétique, tout aussi inutile, mais qui révèle la volonté de compenser les actions humaines, comme celui de la vidéo « Watercolor » de Francis Alice de 2010. Un homme prend dans la mer Noire un seau d'eau à Trabzon, en Turquie, pour le verser dans les eaux de la mer Rouge à Akba, Jordanie, où elle manque. Rappelons-nous de Ying Sushen qui lave la rivière ou Yugi Agematsu qui rend plus propre la ville, mais aussi de l'artiste Hans Hacke qui fait une sculpture Beach Pollution 1970 avec les déchets ramassés sur une plage. D'autres artistes optent pour des actions plus concrètes pour tenter de réparer ce que la civilisation urbaine a éteint. Alan Sunfix, dans son œuvre Times Landscape de 1965, replante sur une parcelle de Manhattan des arbres qui étaient présents avant l'arrivée des colons au XVIIe siècle. Une autre artiste, biologiste australienne, Janet Lawrence, dans son œuvre Cellular Garden Where Breathing Begins de 2005, dans des éprouvettes, tubes, vases en verre, sont conservées des pousses d'arbres de la forêt tropicale du Chiapas au Mexique, où la déforestation intensive rend la protection de leur espèce difficile. Elle prend soin, métaphoriquement, de recourir à l'usage de matériel médical, comme pour évoquer la maladie qui frappe l'environnement des communautés indigènes, ainsi que le nécessaire soin à apporter à son rétablissement. Mel Sheen, dans les œuvres intitulées « Revival Field » de 1990, avec le professeur Rufus Chanet, sème des plantes capables de fixer des métaux d'un sol industriel ou de décharge, et ainsi, elle les intègre dans leur processus de développement biologique pour reconstituer une terre saine. D'autres se refusent à intervenir pour respecter l'environnement, soit par l'emploi de peintures biodégradables, soit à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, comme The Cleaning Street Art de Zuve. Bien entendu, il faut faire une place au recyclage des produits et des matériaux qui occupent un très grand nombre d'artistes. L'un des premiers, dans les années 80, à penser le recyclage des plastiques fut Dan Peterman. Il établit des modules en plastique recyclé, briques, os, formes en Z, etc. et construit une cabane, un mur, un sol. La plage Plastic Bone de 2011 est un sol présenté à la galerie de Kloskerwelde à Berlin. Troisièmement, agir ensemble, expérimenter pour repenser nos façons de vivre. Agir au sein de collectifs pour prendre conscience de l'état de la Terre, proposer des solutions écologiques au public. L'opération Art et écologie, un temps, six lieux, regroupe plusieurs associations d'artistes qui, dans chacune des villes canadiennes choisies, dénoncent plusieurs situations écologiques inacceptables, comme celle qui a eu lieu le 5 mai 1983 à l'aéroport de Rivière-du-Loup, où 200 personnes se coucheront sur le tarmac de l'aéroport. Chacun était entouré d'un cercle de peinture blanche identifiant la trace d'un corps qui vient d'être assassiné. Ils manifestaient sur la livraison d'insecticides. Ishii Ikeda, dans son œuvre « Water Ekiden Monosegawa River Art Project » de 1999, avec l'aide d'ingénieurs, construit tout un ensemble filtrant après de longues discussions auprès des habitants pour les sensibiliser sur la pollution de leur rivière. Cet ensemble n'est conçu qu'avec des matériaux naturels pour créer un circuit qui purifie l'eau dans ce système de régénération de l'eau en boucle. Edouard NG entreprend en 2009 de construire un pont flottant résistant aux crues avec un ingénieur pour éviter aux Tibétains de Maosi de devoir reconstruire leur pont chaque année après les crues. Deuxièmement, faire participer à des gestes écologiques simples comme nettoyer, boire, planter, semer, etc. Mirle Landerman Ukeles, dans son œuvre Maintenance Art One Hour Every Day de 1976, Elle demande à des femmes de ménage travaillant dans les banques de Manhattan de faire une sculpture avec les déchets qu'elles ont récoltés après leur ménage et de les photographier. Lucie et Georgetta, dans l'œuvre Drinkwater de 2006, mettent en place une machine à dépolluer l'eau de Venise pour la mettre à disposition du passant désirant la boire. Ils animent un colloque sur l'eau et laissent leur droit à ceux qui souhaiteraient reprendre leur projet et le développer. L'un des domaines repris très largement aujourd'hui concerne la réalisation collective de jardins, comme celle proposée par l'artiste Thierry Boutonnier, qui mène de nombreuses unités potagères dans des quartiers comme le programme Prenez Racine de 2009 à 2016 au quartier Mermoz à Lyon, où les habitants sont intervenus par un de leurs arbres qu'ils ont fait pousser puis replanter sur les espaces de leur quartier. À Genève, il propose dans le projet Verger de rue de 2023 aux habitants de participer à la plantation d'un verger. Dès les années 1980, un autre artiste, Joël Hubeau, a remplacé les fleurs dans les bacs publics de la ville de Saumur par des cultures maraîchères lors de son intervention « Semer, planter des carottes » de 1980. Comment les artistes pensent la question écologique ? Pour penser la question écologique, les artistes ne diffèrent en rien des positions communes de la société, qui distinguent ceux qui pensent que le système économique industriel capitaliste n'est pas compatible avec l'écologie, parce qu'il exploite la terre exagérément, ne prend pas en compte la finitude de ses ressources et conduit à leur épuisement, et parce qu'il se pense supérieur, ne prend pas en compte son appartenance intrinsèque à la terre, bouleverse les équilibres sans se rendre compte qu'ainsi, il se dirige inexorablement vers une vie impossible sur Terre. Ce rejet du capitalisme considère qu'il ne fonctionne que dans une objectivation de l'altérité. Autrement dit, la valeur marchande, la liberté individuelle colonisent tout, même les hommes, qui en viennent à s'exclure entre eux en tant qu'objets. Et puis, il y a ceux qui pensent que l'homme pourra s'adapter, corriger, refonder le capitalisme, malgré le peu de temps qui lui reste pour résoudre la crise écologique, grâce à son intelligence, et sera en capacité de développer des solutions nouvelles à renverser par son action les conséquences des erreurs qu'il a commises. Les premiers pensent qu'il faut changer le mode de vie, les autres qu'il faut trouver les justes adaptations pour pouvoir continuer notre mode de vie, grâce à de nouvelles technologies, en biologie, en intelligence artificielle par exemple. Nous retrouvons ce clivage entre l'idée de l'écologie punitive, l'écologie douce, entre l'écologie et le développement durable. Si un grand nombre d'artistes s'intéressent aux technologies, nous pouvons constater que leur utilisation peut répondre à des objectifs différents. Soit pour dénoncer, soit pour soigner et rendre résiliente la nature, comme la recherche de Jeannette Lawrence, que nous avons vue, ou celle d'Olga Kiseleva, Eden, Éthique, durable, écologie, nature, qui vise à redonner vie à des plantes disparues grâce à leur ADN avec l'aide de scientifiques de différentes disciplines. Cette dernière a travaillé sur une espèce de pommier, à Port, détruit par le développement de l'urbanisation et de l'industrialisation au Kazakhstan. Soit, pour compenser les effets des bouleversements écologiques, en trouvant une nouvelle solution technologique comme la réalisation de Sam Van Aken, arbre aux 40 fruits, qui parvient à multiplier les greffes sur un tronc porteur pour obtenir un arbre aux 40 fruits. Les artistes contemporains sont pour la plupart d'entre eux convaincus du combat écologique. Néanmoins, il existe un écart entre ceux qui dénoncent les conséquences de l'écologie sans porter un regard critique sur l'écologie de leur production et ceux qui tentent de la mettre en pratique dans la conception de leur œuvre. L'œuvre d'Olafur Eliasson, Ice Watch, de 2015, que nous avons vue, qui, si elle dénote d'une intention écologique en dénonçant la fonte des glaciers, n'hésite pas à mettre en œuvre une logistique très peu écologique pour déplacer de tels blocs de glace et reste encore dépendante de la forme sculpturale et de la composition. A l'inverse, l'œuvre de Michel Debrun, Shared Propulsion Car, de 2005, qui transforme une carcasse de Buick en une voiture à pédales, nous propose avec une ironie douce une manière de transformer nos vies vers des comportements plus humbles, plus exigeants et plus écologiques. Les œuvres d'art que nous avons évoquées nous donnent l'image d'une vision non consensuelle de ce que pourrait devenir notre futur et en montrent aussi toute la complexité. Néanmoins, Paul Ardenne, dans son livre « Un art écologique, création artistique et anthropocène », pense qu'un nouveau régime de l'art va naître de l'ensemble des réflexions sur l'écologie, qui abandonne le régime classique de l'art pour un nouveau régime écologique de l'art qui serait contextuel, éthique, participatif, collectif et de proximité. Un autre critique d'art, Nicolas Bourriaud, dans son livre « Inclusion esthétique du capitalocène », pense l'art comme un lieu de résistance au monde économique capitaliste et questionne l'humain comme n'existant plus que dans des connexions entre tout le vivant. Il écrit « Le régime esthétique du capitalocène pourrait se résumer à ce sentiment d'immersion dans le monde par un bouleversement radical de nos représentations du dehors, par le surgissement d'une crise de l'échelle humaine qui affecte notre conception de l'extérieur. » En incluant le vivant sous toutes ses formes inclusives mettent en avant la méthode plus que les résultats visuels. L'humain devient le vivant dans le vivant. Ce n'est plus l'homme central, car comme tout le vivant, il est enserré dans le filet connecté du vivant, qui fait qu'il est responsable des déséquilibres qu'il s'inflige et qu'il inflige au vivant. Immergé dans le vivant, il en perd le contrôle. Il devient aussi important qu'un ver de terre, qu'une abeille ou qu'un arbre. Chaque élément vivant a ses spécificités. Certes, nous disposons certainement de capacités plus grandes que d'autres pour transformer la terre, qui exige de notre part une plus grande responsabilité. Mais au-delà, nous commençons en renversant notre vision à nous rendre compte que les arbres échangent entre eux, que les animaux ont des émotions, que dès qu'une modification intervient dans le vivant, elle n'est jamais sans conséquence sur lui. Tout vivant a une action sur le vivant. Et si les technologies renforcent nos capacités de transformation, nous savons tous qu'elles rendent notre monde plus complexe et plus dangereux. Tant que le politique n'aura pas entériné des modes de vie qui se fondent sur notre humilité et notre altérité avec la Terre, nous serons une espèce en voie de disparition. D'autres espèces ont bien disparu, les dinosaures par exemple. La Terre reviendra peut-être au premier de ses habitants, les bactéries.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío. Que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. Crece en mí y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Suave del mar, volver a respirar Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Me sorbiste el sexo y me decía.